Alors, vous voulez que je parle? Voilà, on est pas mal. Bonjour à tous. Comment ça va aujourd'hui, alors qu'on s'apprête à courir 100 km? Hein? C'est rigolo ça de... C'est rigolo ça de courir 100 km. Yes, it's amazing. Donc, deuxième course un peu objectif suite à l'abandon d'Istriar. C'était pas hyper prévu d'en faire un objectif. Bon, ce serait d'ailleurs vous mentir que j'arrive à Léger avec la même forme et les mêmes intentions qu'à l'UTMB. Puisque mon emploi du temps dans les 3-4 dernières semaines avant Léger est un petit peu chargé versus celui que j'aurai avant l'UTMB, qui est beaucoup plus déchargé, quoi, un peu comme quand, voilà. Du coup, pour celles et ceux qui me suivent depuis le début du Patreon en août 2020, enfin en juillet 2020 même, vous avez l'habitude de ces documents. Mais, vu qu'on a beaucoup de nouveaux, c'est très bien, je vais compléter un petit peu. Alors, pourquoi c'est pas là? Ah, voilà. Quand je me prépare à une compétition sportive et que j'y vais avec des ambitions relatives, là, si tu veux, j'arrive à Léger dans une philosophie similaire au trail du Vulcain. C'est-à-dire que je me suis bien entraîné, j'ai fait les choses pour être en forme le jour J. Après, je n'ai pas déchargé mon emploi du temps professionnel autant que lorsqu'on est face à un objectif majeur. Alors, c'était le cas à Istria, mais je m'étais complètement piné. Bon, ben voilà, ça arrive. Et à l'UTMB, pareil, on sera sur un objectif majeur. Et il est possible que j'essaye d'en faire un en fin d'année. Mais ça, je n'en suis pas sûr. Je me laisserai la décision après l'UTMB. Donc, lorsque la course est fixée, donc Léger Ultra Trail... Là, c'était facile, je l'avais déjà fait en 2017, donc je sais exactement à quoi m'attendre. Le parcours n'a pas changé depuis... Je suis remonté jusqu'à 2015 pour les traces GPX. C'est toujours les mêmes. Alors, cette année, une toute petite modif, j'y reviendrai après. Donc, je fais mes temps de passage. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai pris mes temps de 2017, et en fait, j'ai réfléchi un peu à comment j'avais abordé la course. Déjà, j'avais beaucoup moins de passifs sur Ultra qu'aujourd'hui. Et à l'époque, enfin jusqu'en 2021, en fait, moi j'avais un problème, je partais trop vite. Donc en 2017, à Léger, je suis parti trop vite. Et en plus, à cette époque-là, j'étais vraiment très con. Donc ça, j'ai été très con jusqu'à 2020. C'est que je m'entraînais beaucoup trop. Donc là, j'avais fait 2 semaines à 30 heures. Alors attendez, je vais sur Strava, parce que je n'ai pas envie de vous raconter des bêtises. Surtout en 2017, je m'étais fait un érysipèle en début d'année, donc j'avais fait une grosse coupure en février-mars. Ah putain, il recourt ce cochon de Walmsley. Donc vraiment, j'avais beaucoup borné après, mais c'était un peu déraisonnable, j'étais en manque de repères, c'était seulement ma deuxième année avec Patrick Bringer. Je me lançais en tant que speaker, j'étais sur mes premiers événements, donc tout était délicat en fait, si tu veux. Et du coup, va savoir pourquoi, ouais, les 2 semaines avant, j'avais envoyé un peu du sale. Alors, la semaine avant Léger, j'avais fait 17 heures. Ah ouais. Bon, ça va, j'avais pas été trop violent, j'avais fait beaucoup de vélo. Ouais, j'avais pas beaucoup couru. Hein. Tiens, putain, j'avais couru... Ouais, 2-3 fois, ouais, voilà, ça, c'était pas très spécifique. Par contre, la semaine encore avant, ah, voilà, c'est là où j'ai fait 30 heures. Ouais, et j'ai fait 30 heures la semaine après le marathon du Mont-Blanc. Ouais, donc c'était encore plus idiot, sachant que le marathon du Mont-Blanc, je l'ai fait... Ouais, juste après une autre semaine à 20h. Ah putain, j'étais allé au Havre. Bref, c'était pas top top, tu vois. J'étais arrivé, je m'en rappelle, j'ai pris le départ et j'avais les jambes lourdes. Là, ça devrait pas être le cas. Je me suis testé sur des petits efforts seuil. Je suis pas mal. Voilà, je pense que je suis en meilleure forme. Vu que je connais le parcours, je sais un peu à quoi m'attendre. Et du coup, j'ai dimensionné mon chrono pour viser une cotation à 850, ce qui est un petit peu ce que je pense que je vaux, notamment depuis Cape Town en 2019, où j'avais scoré à 835, mais vu la technicité du terrain, ils auraient pu mettre 850 quand même, ces bâtards. Mais voilà. Du coup, je déroule un peu le plan de course. Enfin, je fais mes temps de passage par rapport à ça, pour être régulier. Donc là, vous pouvez vous servir de l'application Live Info, vous rentrez soit la cote que vous visez, soit le temps que vous visez. Et du coup, ça vous donne des points de passage. Après, je les ai affinés par rapport à mes passages en 2017, parce que souvent, j'ai remarqué que cette application vous fait partir trop vite. Ce qui est vraiment pas bien. Et une fois que j'ai mes temps de passage, j'envoie tout à Sébastien Diefenbrom, mon nutritionniste, en lui disant à quelle heure je passe au ravito et en lui disant à quel ravitaillement je peux avoir une assistance. Parce que là, tous les ravitaillements sont autorisés à l'assistance, donc il y en a 14. Le problème, c'est qu'à moins d'avoir quelqu'un qui court à côté de vous ou qui fait du VTT électrique à côté de vous, il n'y a aucune chance que votre ravitailleur soit à tous les ravitaillements. Donc, moi, je me suis basé sur ce qu'on avait fait avec ma mère en 2017. C'est pas mal, ça permet d'avoir 1, 2, 3, 4, ouais, 6 fois l'assistance, c'est déjà énorme. Parce que là-bas, en fait, il faut savoir, c'est assez bien foutu, à la rigueur. Vous avez plein de remontées mécaniques, et en fait, vous pouvez prendre un ticket pour... Bon, ça coûte 100 balles, hein, bien sûr, vous êtes en Suisse allemande. Chamonix à côté, c'est vraiment un truc de clochard. Mais... Bon, au moins, vous pouvez aller partout, puis c'est assez kiffant, parce que ce soit avec les œufs, avec des télésièges, avec des trains, en fait, vous prenez un peu n'importe quel type de transport, ben, vos ravitailleurs peuvent accéder, pas forcément au sommet, mais à des très, très beaux points de vue, c'est vraiment chouette. Franchement, je vous invite tous à dire à votre femme, enfin, ou à votre homme, d'aller se faire cuire un œuf samedi et de regarder les images du live. À mon avis... Ceux qui ne connaissent pas, vous allez vraiment avoir un coup de cœur. Donc, Sébastien Diefenbrom me donne ce premier document que je vous fournis. Donc, je l'ai appelé Ravito Eiger 23 Seb. Voilà. Là-dessus, vous retrouvez les ravitaillements. Ils me disent qu'il faut consommer au ravito. Et ils me disent qu'il faut que je consomme sur la portion qui va d'un ravitaillement à l'autre. Donc il y a un petit jeu de l'esprit à faire, c'est pas dans sa tête, c'est clair, mais moi quand je le lis, j'ai toujours un peu de mal. Et donc Seb, il fait attention à une chose, il fait attention à avoir plus de 500 ml d'eau à l'heure. Et là, vu qu'on va commencer à 4h et finir vers 16h, on est vraiment sur le minimum. Ce qui fait que par exemple, à des moments, il marque de prendre 1,5 flasque de boisson, moi je vais remplir les deux flasques, tu vois. La 0,75 pour la flasque, je vais la remplir intégralement, etc., etc. Et ça, il peut pas, tu vois, je lui demande de le faire 2 semaines avant, parce que, tu sais, le mec bosse, hein, c'est pas non plus... Et du coup, on peut pas anticiper une météo un peu chaude. Alors, il fera chaud, mais pas trop... si je reprends la météo là, du côté de Grindelwald, donc là on est vraiment juste avant, quoi. Il y a eu une suspicion un peu d'orage dans la semaine, visiblement c'est passé, et en fait samedi on devrait avoir de nouveau un joli soleil. Malheureusement des bonnes chaleurs quand même, et voilà, même si Grindelwald est à 1000 mètres d'altitude et nous on tourne un peu autour, donc on va être entre, à un moment donné, on descend à 800 mètres, puis sinon on est à 2800 mètres au max. Voilà, on va se prendre le soleil sur la poire, ça va être une journée assez chaude. Ça va pas être caniculaire, mais enfin bon, pour courir, on va avoir chaud. Donc ouais, le plan que Sem m'a fait, c'est un minimum, et je remplirai vraiment mes flasques à chaque fois. Voilà. Après, il fait attention aux glucides. Donc là, je lui ai dit que je voulais être entre 60 et 70 grammes parce que... au-dessus de 70 grammes, je l'avais fait un petit peu au Grand Trail du Lac. Et je saturais un peu sur la fin de course. C'était une course de 7h30. Là, on est sur une course qui, je l'espère, va durer moins de 12 heures. Et du coup, j'ai abaissé un peu la fourchette pour être plutôt entre 60 et 70, plutôt qu'entre 70 et 80. Parce que normalement, je suis censé un peu moins taper dans les pulses qu'au Grand Trail du Lac. Voilà. Et dernier paramètre qu'il regarde, c'est le sel. Alors le sel, attention, il est était un peu bas à certains moments, sous les 500... Ah, il n'a pas mis l'unité. Bon, c'est pas grave. Donc là encore, je peux m'autoriser, en fait, sur les ravitaillements. Vous savez, pendant que je remplis mes flasques, en fait, très souvent, les bénévoles sont d'une gentillesse incroyable et prennent vos flasques pour les remplir. Bon, forcément, si vous arrivez à 20 au ravitaillement, ils ne vont pas le faire, mais si vous arrivez tout seul... Ça peut être parce que vous êtes en tête de course ou parce que vous êtes tout seul dans le peloton. Hein. Des fois, il y a un mec qui évolue tout seul. Le bénévole remplit vos flasques. Bah, au lieu de rester là, debout comme un con, à la regarder, à rien faire, pendant ce temps-là, prenez une petite poignée de d'oléagineux salé, là. Bah, ou même, s'il n'y a pas, de chips. Bon, les chips, si vous en mangez 3-4, ça ne va pas vous faire vomir. Et l'intérêt, en fait, c'est que ce truc est hyper salé. Donc, tout de suite, ça va combler quand même un peu des apports, on va dire, dont on pourrait douter avec les fortes chaleurs. Disons que mieux vaut trop que pas assez sur ce coup-là, vu ce qu'on va prendre comme météo. Donc ça sert à établir ce premier document que vous avez. Et une fois que Seb m'établit ce document, moi je le décortique et je me fais un deuxième document. Ça, c'est le gros document que j'imprime pour mon assistance. Bon, alors là, c'est facile, c'est mes parents. Parce que ce week-end-là, bah, ils sont tous les deux en vacances. Ils sont enseignants, hein. C'est eux qui apprennent aux enfants à devenir un peu moins cons. Alors, c'est pas gagné, hein. C'est très très dur. Mais bon, ils essayent. Et du coup, sur ce document, bah, voilà, je me le relis aussi les jours d'avant. Donc, je me note que le départ est bien à 4 heures, je me note la distance. La distance, c'est celle qui est marquée sur le site UTMB, 103,9 km. Moi, j'y crois pas trop parce qu'il a toujours fait 100, 101. Et 6700 mètres de dénivelé. Alors, ceux-là, par contre, ils y sont vraiment. Normalement, ils y sont vraiment, d'autant plus cette année. Vous allez comprendre pourquoi. Je note les ravitaillements. Je note le matériel obligatoire. Comme ça, quand je fais mon sac, j'ai pas besoin de rallumer le PC. Tout est sur ma petite feuille que j'ai imprimée. Et ensuite, on est parti. Je note les ravitaux, donc avec le départ. Je note à quelle heure j'y passe, donc le départ, bah, c'est facile, j'y passe à 4 heures, comme tout le monde. J'aurais parcouru 0 km et 0 mètre de dénivelé. Au départ, je dépose rien, enfin franchement, il fera pas froid et tout, donc à la limite, je demanderais à un coureur de mettre ma veste coupe-vent dans mon sac juste avant le départ. S'il veut pas, évidemment, je le frapperai, et ensuite, si je le frappe suffisamment fort, il va accéder à ma requête. C'est toujours comme ça. Si vous pensez que la violence ne résout rien, c'est que vous ne tapez pas assez fort. Ça amène toujours une solution, la violence. Ah, après, des fois, ça amène pas la solution qu'on veut. Mais il y a toujours un résultat. Bon, je déconne. Je sais plus de qui elle est, cette citation, mais c'est exceptionnel. Donc, je note ce qu'il faut consommer sur la petite ligne de départ, parce que bah, tu te doutes bien qu'en me réveillant à 3h du matin, je vais pas déjeuner comme un cochon. Déjà parce que dans la vie normale, je ne mange jamais à 3h du matin. Donc si je blinde mon ventre à 3h du matin, mon corps il va se dire « Mais attends, mais qu'est-ce que tu fais gros là ? Moi j'étais en train de dormir, et toi en fait tu t'enfiles du sarrasin là avec du lait de soja, qu'est-ce qui se passe ?» Non, je vais manger 2 œufs tranquillement avec des petites baoues très gustatives. Alors, j'ai les nouveaux produits baoues. Je ne vais pas les utiliser dans la course parce que j'ai pas envie de vous mentir et je peux pas vous révéler ce que c'est. Donc je vais vraiment utiliser les purées que je vous décris là. Et ensuite, dans le document, j'ai à chaque fois partir avec. Donc c'est voilà, au départ, je pars avec une flasque. Alors, la deuxième sera vide, mais en fait, j'en ai pas besoin, parce que rapidement, au bout d'une heure... Enfin, au bout d'une heure... Putain, au bout d'une heure ? Attends, mais ça... Ça fait partir un peu vite, ça. Ouais. 9 bornes, 1000 mètres de dénivelé. Ah oui, c'est ambitieux, ça. Bon, en même temps, 9 bornes en 1000 mètres, oui, de ce que je me rappelle, en fait, on passe tout le début de la course à alterner course et marche. Et deux purées bananes, voilà. Alors après, je vais pas vous lire tous les ravitaillements, puisqu'ils sont sur la feuille, mais tout ça pour vous montrer que ça marche toujours pareil. Ravitaillement numéro 1, le nom du ravitaillement, passage à telle heure, après tant de temps de course, j'aurai parcouru tant de kilomètres, je dépose ça, je consomme ça, je pars avec ça, il me reste à parcourir cela. Ça permet aussi à mon assistance de se divertir en lisant un peu le déroulé de la course. Donc là, on a tout le déroulé de la course. Certains ravitaillements, je ne vais pas m'arrêter parce qu'à un moment donné, il y a des ravitaux toutes les demi-heures. Donc en fait, ouais, t'arrêter toutes les heures, c'est bien. Toutes les demi-heures, bon, ça fait un peu beaucoup. En fait, ça, c'est bien pour, par contre, la fin du peloton qui, eux, vont mettre facilement plus d'une heure entre ces petits ravitaillements très peu espacés. Et du coup, eux, ça va leur permettre de voyager peut-être un peu plus léger qu'à l'accoutumée. Mais pour la tête de course. Voilà, donc là, il y a tous mes ravitaillements jusqu'à l'arrivée, mes temps de course. Mes temps de course sont pas trop ambitieux jusqu'au kilomètre 40. Pour vous définir un peu ma stratégie. Et en fait, c'est après le kilomètre 40 où là, je commence à descendre assez vite à Burglaunen, qui est un peu plus que la mi-course. D'autant plus que dans cette descente, entre le ravitaillement numéro 7 et le ravitaillement numéro 8, entre Schwand et Burglaunen, il y a eu un éboulement. Du coup, on va faire un petit contournement. J'ai regardé sur la carte, le contournement va quand même rajouter 100-150 mètres de dénivelé. C'est pas insignifiant. Et il va rajouter en longueur peut-être 500 mètres sur la longueur finale, parce qu'en fait, on arrive vers l'éboulement, tac, on monte tout droit, on traverse plus haut et on descend après. Ouais, bien 500 mètres quand même. Du coup, à Burglaunen, il est possible qu'à partir de ce moment-là, j'ai plus de 10 minutes, enfin j'ai 10 minutes on va dire, de différence par rapport au temps de passage que j'ai noté. Non, vous savez quoi, je vais pas m'emmerder, je vais tout décaler de 10 minutes en prenant en compte, voilà, sinon ça va vous perturber. Je vais le noter d'ailleurs. Et ensuite, par contre, il y a une vraie stratégie agressive. Donc je descends fort sur Burglaunen. Et après, il y a une portion jusqu'à Wengen où là, il faut beaucoup courir. Voilà, tu sors un peu les bâtons, tu cours, tu sors les bâtons, tu cours. Et là, je me rappelle, en 2017, j'avais été vraiment mauvais. Je maîtrisais pas du tout ce genre de choses. Et du coup, là, je vais essayer de grappiller beaucoup de temps. Après, il y avait eu la montée du Cavé, donc entre Wengen et Marnieren. Et là, j'ai pas beaucoup de temps à grappiller, parce que je me rappelle, j'étais monté fort. Par contre, sur toute la fin de course, vu que j'avais mis les ultras supérieurs, j'avais mal aux pieds, du coup j'avais mal un peu partout, aux genoux, j'étais fatigué, parce que j'avais pas assez d'amorti. Là, j'aurais des chaussures avec un bon amorti, je vais utiliser les ultras, qui sont des prototypes, qui ont été faits pour moi, mais qui vont sortir en magasin, avec peut-être des modifs par rapport à ce que j'ai maintenant. En fin d'année ou début 2024. J'ai pas le droit de vous en parler. J'ai pas le droit de vous dire exactement ce que c'est. Après, si vous êtes pas trop con, vous allez vite deviner. Mais là, il y a pas mal d'amortis. S'il pleut, bon, il va pas pleuvoir. Il y a une très bonne accroche. Et c'est une chaussure qui renvoie vraiment bien. Donc, sur les quelques portions un peu roulantes, je pense... C'est vraiment le très bon type de chaussure pour ce trail. Et normalement, ça me servira aussi à le valider pour le début de l'UTMB. Les 80 premiers kilomètres à l'UTMB. Après, je referai confiance aux Olympus, comme d'habitude. Voilà. Ensuite, après tout ça, on va passer aux favoris. Donc ouais, ça me ferait 11h45 de course. Mais il faut bien prendre en compte que par rapport à l'an passé, en fait, ça correspondrait à 11h35 de course. D'accord ? Et une cotation de 845 à peu près. Après, vous le savez, la cotation, c'est un peu... Voilà, quoi. Ça, tu vois, ils mouillent leurs doigts, ils le mettent en l'air, ils font « Ah, il y a un peu de vent ». Voilà, ça, c'est un peu comme ça que se fait la cotation, quand même. Alors après, au niveau des favoris, parce que c'est ça vraiment qui va nous exciter, il y a un joli plateau. Donc, je vais vous les... je vais vous les décrire, puisque on a quand même Hannes Namberger au départ. Et on pouvait douter un peu du plateau des favoris, puisque la semaine dernière, il y a eu Val d'Aran, il y a eu le Verbier Saint-Bernard, il y a eu deux semaines avant le Lavaredo, il y a eu la Western, il y a eu les championnats du monde. Ça fait trois semaines qu'on a une activité trail qui est très très riche, et c'est normal, c'est vraiment la période pour les gros ultras. Parce que je rappelle qu'il y en a moins en août, à cause de la concurrence de l'UTMB. Donc souvent, tous les ultras sont calés en juin-juillet. Et du coup, vu qu'il y a énormément d'ultras, bah, ça dilue un peu le niveau. Bon, c'est normal, il faut bien que tout le monde se fasse plaisir. Et puis vu que toutes les courses sont remplies, on va pas en supprimer, parce que sinon, comment font les coureurs qui sont au milieu du peloton pour courir? Et du coup, on pouvait douter un peu des favoris au départ. Et finalement, on a un joli plateau. Donc, Hannes Namberger, recordman du Lavaredo en 2022. C'est le seul homme qui a mis moins de 12 heures au Lavaredo. Par contre, depuis, c'est pas exceptionnel. Après le Lavaredo en 2022, il abandonne sur chute l'UTMB. Bon, il s'était déjà tordu la cheville après le Lavaredo. Bon, c'est pas un coureur qui s'entraîne énormément. Et en plus, il fait pas beaucoup de dénivelé à l'entraînement. C'est quelqu'un qui se rate rarement. Et là, l'an passé, j'ai l'impression qu'en juillet-août, il a mangé un peu son pain noir, puisqu'après, il a remis en route. Il a gagné Cap Town avec Dimitri Mitiaev. Il termine 14e à Innsbruck. Alors apparemment, il aurait eu un petit manque d'énergie. Au niveau de l'alimentation, il aurait merdé un peu Innsbruck. Bon, pourquoi pas. Par contre, Innsbruck, c'était quand même, tu vois, c'était il y a... Merde. C'était il y a 1, 2, 3... Attends, 1, 2, 3, 4... Ouais, 5 semaines. C'est... T'as le temps de récupérer. Mais, en 5 semaines, disons qu'il faut 2-3 semaines pour que ton corps digère quand même l'effort de 85 km. Après, tu vas te réentraîner une semaine et tu vas déjà te reposer un petit peu pour la course suivante. Donc, 5 semaines entre deux courses qui durent un peu plus de 10 heures, on est déjà sur de l'enchaînement. On ne peut pas dire, c'est faux, on ne peut pas dire, je me suis reposé, je me suis réentraîné. C'est pas vrai. On peut dire, j'ai digéré un peu la première course, par contre, je ne me suis pas réentraîné pour la deuxième. Et du coup, je viens sur la forme de la première. Bon, pourquoi pas ? Pourquoi pas, mais derrière, il va falloir se reposer un petit peu. Quand on sait que le garçon, il veut encore aller sur l'UTMB, ça commence peut-être à faire beaucoup. Alors, il le payera peut-être pas à Léger. Peut-être qu'à Léger, il va tous nous mettre une branlée. Mais est-ce que ça va être le cas à l'UTMB? Tu vois, à un moment donné, tu payes l'addition, en fait. Et plus tu recules le moment de payer l'addition, hein, c'est comme quand t'es au resto, hein, tu commences à prendre une entrée, un plat, finalement, tu prends aussi un dessert. Et puis, tiens, bah, la bouteille de vin, le rosé, on finit par le champagne, et puis on reprend un petit café derrière. Bon, bah, derrière, l'addition, tu vois, t'es resté longtemps au restaurant, l'addition, elle est longue. Elle est salée. Voilà, c'est un peu pareil. Après, on a un coureur que je connais pas, avec qui j'ai jamais couru. C'est le Suisse Ramon Manetsch. Alors, du coup, j'ai investigué un petit peu. Le garçon a quand même fait 8e à Innsbruck. Et encore une fois, bah, c'était il y a 5 semaines. 8e à Innsbruck, tu te doutes bien qu'il a pas fait ça comme ça. Il a tout donné. Est-ce qu'il aura suffisamment récupéré? C'est un homme de championnat, il avait déjà été 12e en Thaïlande, donc le 80 bornes, c'est un format qu'il apprécie. 12h09 à la CCC en 2019, donc bah, ça cause. Après, sachant que Leger, pour la tête de course, il faut 30 à 40 minutes de plus que sur la CCC. Du coup, en mettant 12h10 à la CCC, à Leger, tu vas péniblement viser moins de 13h. Donc je me dis, après c'était en 2019, hein, mais est-ce que finalement, sur plus de 100 bornes, c'est vraiment un client, ce Ramon Manetsch? Est-ce qu'en fait, il n'est pas plutôt limité déjà vers 80 km? Voilà. Donc, autant j'ai peur de Namberger, autant Manetsch, je me dis que c'est pas quelqu'un qui est intouchable. Bon, il est meilleur que moi, hein. Mais peut-être que sur le format sans bornes, on a une certaine bascule où en fait, je suis en train de le rattraper un petit peu. Parce que moi, par contre, si je fais moins de 100 bornes, je vais pas arriver à aller beaucoup plus vite, tu vois. Josh Wade. Alors, lui, il est un peu surcoté. Lui, Voilà, je le défonce. Il a gagné Snowdonia, bon, c'était il y a 2 mois. C'était un 100 miles. Est-ce que 2 mois après, on peut avoir récupéré? C'est possible. Tu vois, moi, après l'UTMB, 2 mois après, je gagne le Grand Trail du Lac et j'ai des super sensations. Donc, c'est vrai que des fois, c'est un peu bizarre. Par contre, étonnamment, 1 mois après le Grand Trail du Lac, je me blesse, tu vois. Donc, voilà. Il a fait... Voilà, un bon Snowdonia. Quand il est venu sur un format montagne à la CCC l'an passé, il était 41e. Sachant que mon frère a fini 35e en vomissant ses tripes dans les 2 dernières heures. C'est pas exceptionnel. Aux 80 km de la Trans-Grand Canaria cette année. Donc ça commence à faire beaucoup, hein, Snowdonia plus Trans-Grand Canaria. Enfin, beaucoup. Il a fait 8e derrière Cédric Chavet. Alors que moi, je l'avais battu l'an dernier. Bon, ok. Et 12e du Mute en 2022 en cotant à 800. Donc, finalement, il n'a pas l'air si montagnard que ça, ce garçon. Lui, je suis encore plus convaincu de le doubler que Ramon Manetsch. Après, on a un joker. C'est Philippe Osterhofer, l'Autrichien. Osterhofer. 23e à Innsbruck, alors ça c'est pas terrible, terrible. Il a abandonné 2 fois la Transvulcania, donc une fois en mai 2023, une fois en octobre 2022. Il a abandonné à l'UTMB, mais par contre de temps en temps il sort une grosse perf. Donc ça se trouve il va la sortir à Liger. 2e du Val d'Aran, 110 km l'an dernier, seulement 10 minutes derrière Andreo Simon. Forcément il a coté à 880. Et il avait gagné le Mozart 100 en 2021. Pareil, ça c'est quand même gage de qualité. Donc le gars en fait est très bon en montagne et sur le plat. Donc lui, sur le papier, il est meilleur que moi. Après, c'est dur de miser sur lui parce que tu vois, il donne pas trop confiance. Le mec abandonne quand même une fois sur deux. Donc pour l'instant, dans un cas très... je mettrais Namberger et Osterhofer devant moi. Raoul Butacci. Alors lui, ça aurait pu être un client. Le problème, c'est que la semaine dernière, il a couru 110 km au Val d'Aran. Et il l'a gagné. Donc il a mis tout ce qu'il avait dans les jambes. Est-ce que 7 jours plus tard, on peut être encore performant sur un format de 12 heures? Bah, la réponse, c'est clairement non. À moins de prendre des substances interdites. On a vu récemment que Didier Zago a été attrapé à l'EPO. Voilà. Maintenant, est-ce que Raoul va être au départ, en fait? Alors, s'il serait au départ et qu'il n'aurait pas fait le Val d'Aran la semaine dernière, ça aurait été un client. Hein. 8e de la CCC, ça, il faut le faire, hein, il était devant Baptiste Chassagne. 13e des Mondiaux en Thaïlande, 4e de la Trans-Grand Canaria en début d'année. C'est costaud, ça se respecte. Maintenant, est-ce qu'il s'est pas inscrit à Liger? Parce que même quand t'es, soi-disant, un zélite... En fait, Liger ne se prosterne pas devant toi. Bon, sauf si t'es Kylian Jornet. Mais sinon, il s'en fiche. Moi, je me suis inscrit en septembre, un petit peu comme tout le monde. Alors, en fait, j'ai pas eu le tirage au sort, mais le gars qui m'a inscrit m'a bien confirmé. Enfin, déjà, j'ai payé hein, les 260 euros, là, pour faire 100 bornes. Donc, on est à 2,6 euros le kilomètre. Ouais, ceux qui trouvent que l'UTMB, c'est cher... N'allez pas à Zurich, hein. Parce qu'en fait, déjà, acheter un café, ça va vous faire mal. Aéroport de Genève, 2 cafés, 15 euros. C'était de la merde. Donc ouais, Butacci, à mon avis, s'est inscrit tôt dans l'année, en sachant pas trop ce qu'il allait faire. Mais je pense pas qu'il soit au départ. En plus, quand tu regardes ses résultats, c'est pas quelqu'un qui enchaîne comme un débile. Vous allez le voir, on en a un débile, là, il arrive. Giulio Ornati, oh, c'est pas lui le débile. Giulio, c'est un coureur avec qui, mais à chaque fois que je faisais une course, depuis 2016, il est toujours là, quoi. La Maxi Race, l'UTMB, je le croise tout le temps. C'est un Italien qui est très sympa, il parle un petit peu français. Mais quand même, depuis 2 ans, il a pas l'air ouf. Alors, il fait des courses en Italie où il obtient des bonnes cotations, mais quand tu regardes les courses... C'est vraiment des trucs éclatés au sol, genre il y a 50 arrivants. On peut même douter que l'organisateur envoie la bonne trace GPX pour faire les cotations. C'est un peu comme les courses en Espagne ou au Portugal. Donc en fait, les coureurs espagnols, portugais et italiens, ne regardez pas ce qu'ils font dans leur pays. Regardez ce qu'ils font sur le Lavaredo, la Trans-Gran Canaria, l'Omute, des courses qu'on connaît. Et là, bah, Giulio, en fait, ça fait depuis l'UTMB 2021 qu'il n'a pas vraiment performé. Tu vois, Maxi Race 2022, il met 10h30, c'est nul. Enfin, c'est nul. Là, vous allez tous me dire, eh, non mais Hugo, putain, mais moi, c'est mon rêve. Non mais d'accord, mais si tu veux, lui, là, il affiche une cotation à 800, 855. Quand t'affiches une cotation à 855, la Maxi Race, au-delà de 9h30, tu dis pas que t'as réussi ta course. Tu dis que t'as chié ta course. Sinon, t'es un menteur. Voilà. C'est binaire. Donc, Giulio, attention, parce que du coup, il peut sortir sa perf à Leger. Mais j'ai envie de dire que je vais finir devant lui. Donc, je suis toujours sur le podium, là. Moi, je suis très optimiste. Mais il faut être optimiste. Tu vois, viser la lune pour finalement toucher les étoiles, là. Qu'est-ce que c'est le proverbe là, des guignols là, qui font de la prépa mentale en se touchant les couilles, là. Sanjay Sherpa. Ah, voilà, le débile est là, ça y est. Alors, peut-être comme Raoul Boutachi, il s'est inscrit à Leger, mais il va pas venir. Après, lui, niveau conneries, je pense il est en train... Il s'est dit, tiens, le Seigneur m'a donné un corps, et en fait, moi, je vais m'entraîner à le bousiller, tu vois. Vraiment, je vais niquer mon corps. Ouais. Je vais niquer tout mon système hormonal, toutes mes articulations, et comme ça, je pourrai plus rien foutre de ma vie passé 50 ans. Je vais vraiment niquer mon corps. Et en plus, je vais niquer la planète, en plus. Ouais, vraiment, j'en ai rien à foutre. Moi, je l'aime bien. Enfin, je l'aimais bien, Sanjay Sherpa. Là, je commence à avoir du mal, quand même. Il est gentil, il est souriant. Mais cette année... Et ça fait déjà un petit moment que ça dure. Là, quand même, c'est trop, quoi. Il faut arrêter. Tu vois, c'est comme Lucas Papi. Moi, quand je le vois, en fait, j'ai l'impression de voir quelqu'un en phase terminale d'un cancer. Bon, j'exagère, c'est pas le cas, mais j'ai l'impression de voir un mec malade. En fait, à aucun moment, je vois un athlète de haut niveau qui me fait rêver. Je vois un mec qui est un peu gras, qui court doucement. La plupart du temps, il randonne. Ah ouais, mais il a gagné le Tour des Glaciers. Oui, mais évidemment, personne ne fait le Tour des Glaciers, donc oui, il gagne. Mais quand il vient sur une course de 100 km, 130 km, il finit pas dans le top 50. Et pourtant, c'est des courses qu'on va doucement. Donc j'ai un peu du mal avec les gens qui bousillent leur corps comme ça en faisant n'importe quoi. Alors regardez, cette année, Julien Chaurier, il va faire le Tour des Géants. Mais il va faire que le Tour des Géants, il va pas faire 50 000 trucs. Alors allons-y pour l'année 2023 de Sanjay Sherpa. Et là, on est au milieu de l'année. Hein. Sanjay Sherpa, bon déjà, il avait fait un 100 miles, le Doyin Tannon en décembre. Mi-février, donc 2 mois après le Doyin Tannon, il fait Amazon Jungle là en Thaïlande, ça fait 100 miles. Il court déjà 25 heures en Thaïlande. La semaine d'après, il fait la Trans-Gran Canaria. Quel est le projet ? En fait, à quel moment tu te dis « je vais être performant » Et t'as son manager, Patrice Hénequin, pareil, c'est un mec, il a des œillères, il est aveugle. Je l'aime bien, il est gentil, hein. Mais à un moment donné, il faut être rationnel. En fait, ça s'appelle pas être un athlète de haut niveau, faire ça. Ça s'appelle faire n'importe quoi. Évidemment, il performe pas. Hein. La semaine d'après, il fait encore le 75 km du Ventoux. Bon, là, vu qu'il n'y a pas un gros niveau, il termine quand même quatrième. Parce qu'en fait, Sanjay, même quand il est cramé, il court entre 700 et 750 de côte. Mais encore une fois, quand tu vaux 850, c'est juste nul. Moi, ça m'est jamais arrivé de courir à 700. Ma côte, c'est 800. Quand je fais une mauvaise course, j'ai 770. Et déjà, dans ma tête, j'ai vraiment raté énormément de choses. Et là, l'autre, il a un écart parfois de 150 de cotation. C'est nul. Il faut dire les mots. C'est... nul. C'est comme si vous aviez une cotation à 500 et que vous couriez à 350. Regardez l'écart. Comment c'est possible ? Après, il s'est calmé un peu après ce triplé infernal. Il a fait un 45 bornes chez lui en avril. Il a couru une seule fois. C'était un 35 km. Et là, après, il s'est dit j'ai fait de la merde en début d'année, si je recommençais à faire de la merde, c'est peut-être une bonne idée, tu vois, je vais faire de la merde une deuxième fois, puis peut-être qu'en fait caca plus caca égale chose vertueuse. Non, Sanjay. Donc il fait Snowdonia, évidemment il est nul, il termine 12e, il cote à 700. Bah ouais, parce qu'en fait quand tu fais n'importe quoi chaque week-end, tu peux pas t'entraîner. Le 19 mai, donc 7 jours après un 100 miles, il va à Volvic. Pareil, il fait de la merde, il cote à 720. Voilà. En fait, en tant que sponsor, à quel moment je vais lui donner de l'argent pour qu'il véhicule une image positive de ma marque? Mais jamais! Là-dessus, il se dit, bah tiens, je vais continuer à faire des conneries. Donc 7 jours après, il va en Pologne faire un truc, mais un truc de débile mental. 160 bornes et 15 000 mètres de dénivelé. J'ai jamais vu ça. Évidemment, il met 40 heures parce que c'est une boucherie. Il y a 5 mecs qui terminent, donc c'est n'importe quoi. Ça l'arrête pas. Une semaine après, il va faire la Swiss Canyon Trail, 110 bornes. Alors là, étonnamment, il court pas trop mal et il fait un 740 de cotation. La semaine après, donc il continue, il fait le 100 bornes à Tenerife. Bon là, la course est ultra surcotée, il obtient 800, c'est n'importe quoi. La semaine après, il fait l'UTPMA, bon là, il est mauvais. Et là, regardez, il fait un effort de 15 à 20 heures chaque semaine. C'est n'importe quoi. La semaine après l'UTPMA, il fait le Lavaredo. Donc là, il te sort une cote à 730. Je vais me répéter. Mais encore une fois, je ne fais qu'analyser simplement un résultat. C'est nul. Et deux semaines après Verbier, là, après le Lavaredo, il laisse une petite semaine de récup. Il fait Verbier. Et là, vu qu'il est bon dans le technique, il arrive à sauver une troisième place. En plus, il court n'importe comment, il est parti beaucoup trop vite, il explose, il finit à 1h40 de la tête, alors qu'au bout de 40 bornes, il avait 20 minutes d'avance. Enfin, c'est n'importe quoi, ça n'a ni queue ni tête. Pourquoi des sponsors le financent? Au lieu de financer des mecs géniaux, comme les petits jeunes qui arrivent sur Ultra, là, Hugo Deck, bon, c'est faux, ils sont quand même financés. Louison Coiffet, il est au Team Provence Endurance, il a pas grand-chose. Pourquoi il y a des gens qui donnent de l'argent à ce genre de mecs qui font n'importe quoi? Mais qui sont ces sponsors? Quelle image positive véhicule-t-ils? En fait, est-ce que c'est des gens qui sont tellement racistes, qui se disent « Oh putain, il y a un noir qui court, en plus il est souriant, on va lui donner de l'argent. » Mais c'est vraiment lamentable. Ils prônent ni le sport santé, parce que, en fait, si je lui fais faire la même prise de sang qu'à moi, c'est n'importe quoi. Il prône pas non plus l'écologie, hein, parce que c'est un week-end, un pays. Évidemment, il y va pas en train. Ouais, mais je vais au vélo en boulot. Oui, bah, heureusement. Encore heureux. Voilà. Dites-moi quelle image positive il véhicule. Alors, moi-même, je le connais. J'ai de la sympathie pour lui. Je l'aime bien. Mais on a tous ce genre de pote, on l'aime bien, c'est notre pote, mais il fait de la merde. Et putain, t'es là, tu vois ton pote faire de la merde et tu te dis, mais gros, mais pourquoi tu fais ça? Putain, c'est pas possible. C'est chiant, quoi. Voilà. Tu sais, un peu comme quand t'étais au lycée, t'as un pote, il se met à fumer du... Je sais pas, du cannabis ou quoi, puis il est toujours défoncé, il commence à faire de la merde, il a des mauvaises notes... Dans les soirées, tu vois le type, c'est déchet, ou alors il se jette sur l'alcool. Moi, j'en ai eu des comme ça. Bah, c'est facile, hein. Nous, on leur mettait des gifles et après, ils arrêtaient. On était un peu radicaux, quoi. Ouais, parce qu'en fait, si vous trouvez que je suis un peu violent, un peu radical, sachez qu'à partir de mes 20 ans, je me suis énormément calmé et assagi. C'est pour ça que j'ai toujours été surpris de passer les 25 ans, vu ce que j'avais fait. Vu ce que j'avais fait avant mes 20 ans et dans quelle situation je me suis retrouvé à des moments donnés. Des fois, tu te retrouves dans des parcs glauques à 2h du mat avec des groupes d'individus bizarres qui ont envie de te tabasser parce que tu as bousillé leur plantation de cannabis sous leurs yeux parce que c'était dans le champ à côté de là où tu avais envie de dormir avec une tante et ta copine. Sauf qu'en fait, eux, ils étaient 30 et vous étiez 2. Oh là là. Alors après, on retombe sur un Anglais avec Mark Derbyshire. Alors lui, il m'intrigue un petit peu. Lui, je me dis qu'il peut y avoir match. C'est le mec qui fait 19e de l'UTMB l'an passé, et il était parti devant moi, donc parti plutôt vite, plutôt fort. Et tu vois, il finit en 23 heures, donc costaud. Par contre, cette année, il a abandonné Snowdonia, alors pourquoi ? Bah, j'ai pas la raison, je le connais pas du tout. En 2022, il avait aussi fait une 3e place sur le 100 km à Peñagolosa, c'est vraiment pas mal, c'est un gage de bonne santé. C'est pas quelqu'un qui court beaucoup, et il fait aussi d'autres distances plus courtes, donc c'est pas mal. Après, à l'UTMB 2021, il a abandonné, donc attention, il a quelques abandons à son palmarès. J'ai envie de dire que lui, ça peut être le mec qui me sort du podium, tu vois. Après, on a Tristan Blanchard, qui devrait être un bon concurrent. Alors attention, Tristan, je pense souvent, s'il rate ses courses et qu'il part un peu vite, on l'a encore vu l'autre fois du côté de Samoin. Il aime pas courir la nuit, alors il a de la chance, à l'aiguille, on va courir deux jours. Après, il a quand même fait 4e du dernier survivant derrière les animaux, là, Aubin, Matisse et Diego, là. Donc il est costaud. L'an passé, il fait 4 du Will Strubel, c'est pas mal. Mais il met 13h10 à l'Eiger. Donc moi, je me dis que je pourrais le battre, pas facilement, hein, bien sûr, en sortant une grosse course, mais voilà, quelqu'un qui met 13h10 à l'Eiger, c'est pas quelqu'un, je me dis, il est imbattable, tu vois, je peux pas me dire ça, c'est faux, ce serait vous mentir. Après, si je me rate un petit peu pour différentes raisons, bah oui, il va pas être bien loin, il va me doubler. Hein. Après, on a un autre Français, Jean-François Pugin, qu'on a tous découvert à la TDS l'an passé, puisqu'il a fait une énorme remontada, il s'est classé 9e. Donc, il y a un solide coureur montagnard. Après, bon, il arrive quand même à 3h de Ludovic Pommerain, donc on va pas non plus... Mais en 2022, en fait, non seulement il a fait la TDS, c'était plutôt correct, mais il a surtout fait 6e de la Maxi Race en 9h30. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal. Moi, j'avais fait la Maxi Race en 2016. Et je me rappelle plus combien de temps j'avais mis. Alors, j'avais fini dans une fringale, mais monstrueuse. J'essaie de vous retrouver mon chronomètre. J'avais mis 9h36. Ah oui, oh, bah, ouais, bon, je vais le dégommer, le Jean-François Pugin, je pense. Oui, parce qu'en 2016, j'avais fait la Maxi Race, mais laisse tomber, deux semaines avant, je m'entraînais pas, parce que... Qu'est-ce que je m'étais fait ? Oh putain, je m'étais fait une élongation au quadriceps. Donc j'étais parti doucement, j'avais trop accéléré au milieu. Et après, on a Raoul Macaro. Pour les gens qui sont devant moi, après, il y a quelques cotes à 790, 780, il faut toujours s'en méfier aussi de ces gens-là, mais bon, on va s'arrêter ici. Raoul Macaro, bon, c'est quelqu'un qui court assez peu, surtout dans les deux dernières années, ce qui est quand même emmerdant. 6e Trans Grand Canaria Advance en 2020, bon, c'est pas exceptionnel. Il a seulement fait deux fois des courses qui durent plus de 11 heures, donc il n'a pas une très grosse expérience du long. Mais tout de même, 8e du Salomon Pyrénées en 2019, donc c'est bien. Voilà, attention à lui. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je vous ai écrit aussi sur ce document le lien pour suivre le live, donc live.utmb.world/fr. Voilà. Puis pourquoi je vais sur Steiger, quand même, en deux mots, c'est... En septembre, j'avais pris le dossard en me disant « Le 15-16 juillet, tu bosses pas, Hugo. » Donc, prends le dossard pour Steiger. Si jamais tu fais un bon Istria, bah, tu vas à Steiger, mais tu fais genre une rando, puis tu prends les trois Running Stones. On sait jamais, ça peut toujours servir. Au lieu de courir à fond en 12 heures, tu le fais tranquille en 15-16 heures. Comme ça, ça te fait une sortie très longue dans le cadre de ta prépa UTMB, parce qu'on est à S-7, et il faut faire un bloc à S-7, et tu tapes pas trop dedans. Ce qui s'est passé, c'est que cette année, malheureusement, Istria, je suis pas allé au bout. À partir du kilomètre 100, j'ai fait vraiment de la randonnée, ce qui m'a poussé à arrêter au kilomètre 130, puisque ça faisait 2 heures que je marchais, doucement. Et du coup, ben, je me suis dit, en fait, il me manque, tu vois, j'ai pas vraiment fait mon 100 miles, donc, au lieu de faire le 100 bornes en dedans, je vais faire le 100 bornes à fond. Enfin, à fond. Avec les forces du jour. Leger. Voilà. Donc, voilà un petit peu la raison. Après, vu qu'on est à 7 semaines de l'UTMB, évidemment, on est sur une corde raide. Mais on peut s'octroyer encore un effort de 12 heures. Voilà, ça, ça laisse le temps de cicatriser. Du coup, on a prévu une mini coupure avec Patrick derrière, donc une semaine sans sport, pour vraiment digérer ce truc. Et ensuite, on aura une semaine de reprise progressive, du 24 au 30 juillet. Et après, je serai à Tignes, et là, on aura deux semaines de bloc spécial UTMB, et après un affûtage dans le même genre que ce que j'ai fait pour Legger, c'est-à-dire que je vais pas beaucoup me reposer, je vais rester à beaucoup me solliciter d'un niveau sportif avec entre une à deux heures de sport par jour, de temps en temps un jour de repos, mais ils vont être assez rares. Et par contre, quasiment aucun travail, mon seul travail à Legger, pour l'UTMB quand je serai à Tignes, ce sera de vous faire le podcast quotidien. Sinon, je suis tout seul. Voilà, c'est des vacances que je m'octroie, entre guillemets, hein, puisqu'en fait, ces vacances me servent à développer quelque chose sur le plan sportif. Et le but, voilà, même ma compagne, voilà, je serai trois semaines tout seul. Je lui ai dit, voilà, c'est... Alors, si tu veux venir, tant mieux, mais sinon, tant pis. Voilà, je trois semaines dans ma bulle. Voilà, laisse-moi tranquille. Seul moment de l'année où je le demande. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Je pense que, déjà, vous avez un audio de quasiment une heure à vous bouffer. Et vous avez tous les autres documents. Ah oui, je vous ai mis aussi le truc que j'imprime et que je plastifie pour mettre dans ma poche, pour me rappeler de mes temps de passage et de ce que je dois prendre sur les ravitaillements où j'ai pas d'assistance. Voilà. Ciao.